Et au menu de notre club cet après-midi, un mois dans un sous-marin nucléaire, les codes cachés de la nature, un informaticien star de YouTube et de la science-fiction à Nantes. Je vous présente mes invités dans un instant. À la une de la science aujourd'hui, les petits mensonges qui peuvent devenir des gros. Bonjour Agnès Fèvre.
Bonjour Mathieu. On va parler de l'engrenage du mensonge. On peut l'observer en politique, dans les faits divers. Il y a aussi l'infidélité ou la fraude fiscale. Et aujourd'hui, cette spirale du mensonge a une explication biologique. Elle serait induite par le dérèglement de l'amygdale.
On en saura plus tout à l'heure. Céline, il a réalisé cette nouvelle Tête au carré qui a été préparée par Chantal de Montagny avec François Mercier.
La Tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités Nathalie Guibert, Joël Doronet et Bruce Benamran. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Nathalie Guibert, vous êtes journaliste, spécialiste des questions de défense pour Le Monde et vous publiez ce récit « Je n'étais pas la bienvenue » aux éditions Paulsen. Vous êtes la première femme et la première journaliste à avoir pu partager une mission secrète dans un sous-marin nucléaire pendant un mois. Déjà, ça le fait hein, dans le pitch. Et c'est la première fois donc qu'on pouvait réaliser un tel exploit. Vous avez vécu seul avec 75 marins, c'est ça?
Voilà, c'est ça. 75 hommes, pas de femmes à bord, sauf moi, dans 75 mètres carrés, en mission opérationnelle, donc en Méditerranée, dans l'Atlantique. Donc une expérience effectivement très marquante.
Ouais, beaucoup de promiscuité, donc très peu d'espace, hein, comme on va le voir avec vous. Joël Doronet, l'ouvrage que vous publiez au Lien qui libère, c'est un livre de réflexion sur le sens secret de la nature. Et puis c'est aussi un message d'alerte que vous adressez sur quoi, au fond, la vitesse de l'évolution qui nous entoure.
Oui, d'abord comme scientifique, je cherche à comprendre comment des codes très simples, mathématiques, physiques, biologiques, arrivent à programmer des structures aussi extraordinaires dans la nature autour de nous. Ensuite, comme prospectiviste, je cherche à voir comment l'homme détourne ses codes à son profit, le code génétique, évidemment, mais aussi le code source de l'intelligence artificielle, et risque de se faire lui-même concurrence. Et donc, j'essaye de donner des propositions alternatives pour s'en sortir.
Voilà, des questions que vous posez sur notre avenir à tous. Bruce Benamran, vous publiez le tome 2 de vos questions scientifiques développées sur votre chaîne YouTube, Y Penser. Donc, vous n'arrêtez jamais, au fond, de vous interroger sur le monde qui nous entoure. Ça cogite sec hein, chez vous.
Hein. Ah, bien sûr que non, moi, j'arrête jamais. Je suis curieux de tout, tout le temps. C'est épuisant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à être très curieux de tout.
Apparemment, 100 000 exemplaires vendus pour le premier tome. On vous souhaite le même succès pour le deuxième. Merci. Et on en parle dans quelques minutes. On fera un petit tour également par Nantes où on commençait, où commenceront demain les Utopiales, le Festival International de Science-Fiction. Voilà pour le sommaire donc de notre club. Et bien sûr, vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Lorsque le mensonge entraîne le mensonge, le décryptage des neurosciences aujourd'hui à la une de la science.
Ce qui te sauve, toi, c'est que tu mens comme tu respires.
Mais il n'y a pas moyen de faire autrement.
Pierre, le mensonge est la base de la vie amoureuse comme c'est le ciment de la vie sociale.
Chérie, cette coiffure te rajeunit de 10 ans.
J'ai pensé à toi toute la journée. Je voulais te téléphoner, mais j'ai pas eu le temps.
On peut continuer à se voir en amis.
Extrait du déclin de l'Empire américain. Et souvenez-vous, une affaire, celle de Jean-Claude Roman, ce faux médecin, faux chercheur à l'OMS qui a menti pendant 18 ans chaque jour à ses proches, une imposture qui a viré au drame, mais qui était partie d'un tout petit mensonge. Et bien ces actes de malhonnêteté qui font boule de neige viennent de faire l'objet d'une publication parue cette semaine dans la revue Nature. Elle provient de chercheurs en neurosciences de l'Université College de Londres. Et Francis Eustache, vous êtes avec nous par téléphone pour commenter cette étude. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychologue, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Alors comme ça, plus on ment et plus apparemment c'est facile de mentir?
Bah écoutez, c'est ce qui ressort de ce travail, qui est un travail expérimental, hein, qui est très bien fait, qui est fait, comme vous venez de le dire, par des chercheurs de Londres. Donc c'est à la fois une étude de psychologie expérimentale avec plusieurs conditions qui sont enchevêtrées les unes dans les autres. Et puis c'est suivi d'une étude ancillaire, donc sur un nombre plus restreint de sujets en imagerie cérébrale. Alors le contexte, ça ressemble un petit peu à des paradigmes de psychologie sociale. Il y a l'expérimentateur qui mène l'expérience. Il y a un premier participant qui est en fait le vrai participant. Et puis il y a un deuxième participant qui est en fait un faux participant, qui est un complice en quelque sorte de l'expérimentateur. Mais ça évidemment, le premier participant ne le sait pas.
Ben oui.
Et donc le vrai participant a des consignes qui lui sont données. Il est dans une condition relativement confortable où il doit compter des pièces de monnaie qui se trouvent dans un verre transparent. alors que le deuxième participant, le complice, est dans une condition, lui, beaucoup moins confortable. Il voit beaucoup moins bien les pièces qui se situent dans le vase. Et donc, le premier doit conseiller le second. Alors, il y a différentes conditions. Il y a une condition où, quand la réponse du deuxième participant est juste, tout le monde gagne de l'argent. Et puis, progressivement, il y a d'autres conditions qui sont proposées, qui sont au bénéfice du premier participant, s'il indique de fausses vérités, en quelque sorte, aux complices. Mmh. Et en fait, toute l'expérience est basée là-dessus. Et on voit que, progressivement, eh bien, notre participant principal, naïf, en quelque sorte, eh bien, est de plus en plus menteur, donc pour en tirer des bénéfices personnels. C'est-à-dire qu'il est davantage payé s'il arrive à induire l'autre en défaut. Et il en tire d'autant plus de bénéfices dans certaines conditions au détriment du deuxième.
Ah oui, ça va loin.
C'est là où ça va loin, où la morale,
absolument,
on est un petit peu effrayé par la condition expérimentale.
Donc il ment plus s'il a un intérêt personnel à tromper l'autre.
Exactement. Et alors, donc ça, c'est la première partie de l'expérience, donc qui est assez convaincante, je dois dire. Puis la deuxième partie, donc c'est un groupe plus restreint de personnes. Bon, on focalise sur certaines conditions expérimentales, parce qu'évidemment tout ça est relativement lourd à mener. Et donc la focale est mise sur une région du cerveau qui s'appelle l'amygdale, l'amygdale du cerveau, qui est une région qui est très importante dans la gestion des émotions. Et on voit en quelque sorte, j'explique un petit peu en raccourci, c'est que cette région du cerveau, en quelque sorte, s'habitue progressivement à cette situation de mensonge. C'est-à-dire que son activation au début, c'est-à-dire au début, au premier mensonge, on voit une activation très forte de cette région, hein, comme si la personne était extrêmement émue d'être dans cette situation de tromper l'autre. Mmh. Et puis progressivement, eh bien, ces activations deviennent beaucoup moins importantes. Et alors ensuite, il y a d'autres comparaisons statistiques qui sont faites, qui sont assez intéressantes, à savoir que plus le sujet est capable d'habituer en quelque sorte son amygdale à cette situation, et plus il va avoir une propension,
ouais,
à mentir par la suite et à mentir
de plus en plus fort,
en plus importante.
C'est ça, ouais.
Bon, voilà, plus l'amygdale baisse et plus on ment.
Voilà, exactement. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire de façon factuelle. Des expériences qui sont relatées dans ce joli papier, hein, il faut dire, de Nature, là, qui est sorti il y a 2 ou 3 jours.
Mais ça expliquerait un peu cette spirale du mensonge, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a entraîné le cerveau à mentir, du coup, à son tour, c'est lui qui va favoriser cette malhonnêteté.
Alors, ce qu'on peut en tirer, je pense que, bon, c'est... Ça démontre la plasticité du cerveau, s'il en était encore besoin. Dans une situation, là, qui est une situation d'apprendre, en quelque sorte, la malhonnêteté. Hein, donc, on peut voir les choses comme ça. Mmh. Alors après, je pense qu'il faut un peu relativiser, parce qu'on est dans un cadre très expérimental.
Ouais.
Donc, ce qui est bien, hein, ce sont des conditions très rigoureuses. En même temps, on est dans un cadre presque de jeu ou de. On n'est pas dans une situation régulée par les cadres sociaux. Donc, je pense qu'il faut quand même remettre un tout petit peu ça. Je pense que c'est très important. En même temps, c'est vrai qu'il y a des situations. Moi, ça m'a fait penser un peu aux traders ou à des gens qui se trouvent un petit peu en dehors de la vraie vie, quoi, et qui peuvent être conduits à ce genre de situation. C'est là que c'est un petit peu effrayant.
Joël Dorenet, vous avez envie de réagir.
Les politiques le savent bien.
Ah oui.
Les gens retiennent, beaucoup mieux un mensonge simple, ouais, qu'une vérité compliquée.
Les chercheurs parlent de pente glissante. Donc, est-ce qu'on peut transposer cette spirale du mensonge à des actes de violence, par exemple?
Pente glissante, en tout cas, à partir de ce que je viens de rappeler très très simplement, oui, je pense que bon, c'est un papier qui est assez intéressant à expliciter, je trouve, à des étudiants ou même à des plus jeunes, parce que bon, les différentes manips sont assez complexes, mais le principe général est tout de même assez simple. Et c'est vrai que le message, c'est que la pente glissante, c'est ça. C'est-à-dire quand on commence à être dans une spirale de mensonges, eh bien, on peut devenir expert en mensonge. Mais on a des circuits du cerveau, en quelque sorte, qui vont nous permettre de faire cela.
Agnès.
Et est-ce qu'à l'inverse, on peut restimuler l'amygdale pour inciter des menteurs chroniques et peut-être éventuellement dangereux à revenir dans le droit chemin?
Eh oui.
Ça, c'est pas dit dans le message. Ouais. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, là, ce que vous évoquez là. On est plus dans la transition avec la science-fiction.
Voilà donc pour le décryptage de cette étude plutôt amusante qui est sortie cette semaine dans la revue Nature, mais qui est très bien faite sur les petits mensonges qui peuvent devenir très très gros. Et on vous remercie beaucoup, Francis Eustache, de nous avoir éclairés. Merci à vous. Bonne journée. Agnès, merci à vous.
Merci Mathieu.
Bon week-end. À bientôt dans la Une de la Science, puisque lundi on retrouvera Axel Huillard. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, c'est un fragment de papyrus de 11 cm de long sur lequel est écrit Jérusalem en hébreu. Il date de 700 avant Jésus-Christ. Ce petit bout de papier végétal, qui fut jadis un bordereau de livraison de jarres de vin, est aujourd'hui la plus archaïque référence en hébreu qui cite le nom de Jérusalem. Il n'a pas été découvert, mais saisi peu avant sa mise en vente sur le marché noir international des antiquités. Si l'opportunité de cette révélation a créé la polémique, le fragile manuscrit ne manque pas quand même d'intérêt archéologique. En Inde, le Taj Mahal perd de sa superbe, il brunit et rien ne parvient à rendre au fameux palais de marbre son blanc immaculé, ni les produits de décoloration, ni les efforts des autorités. Selon les chercheurs de l'Institut de Technologie de Kanpur, dans l'Uttar Pradesh, l'origine du problème réside dans les feux de déchets qui ont lieu dans certains quartiers. Ils montrent qu'ils génèrent une pollution aux particules fines qui sont aussi très nocives pour la santé. Les chercheurs ont appelé le gouvernement à prendre des mesures de santé publique et de gestion des déchets. Et puis un nouveau venu dans le règne animal, il s'appelle Ilacme tobini, il s'agit d'un mille-pattes très bien armé pour se défendre avec ses 200 glandes toxiques, mais ce sont surtout ses capacités de reproduction qui impressionnent. Il possède en effet 4 pénis, tous fonctionnels, et oui, il a été découvert dans une caverne du parc national de Sequoia en Californie. Allez, le club des têtes au carré dans un instant. Ne cherchez pas dans votre discothèque, c'est un nouveau titre des Rolling Stones, et oui, avec un nouvel album qui va sortir très prochainement, et un extrait Just Your Fool.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Et dans notre club des têtes au carré cet après-midi, un mois dans un sous-marin nucléaire, les codes cachés de la nature, un informaticien star de YouTube et de la science-fiction à Nantes, avec mes invités, la journaliste Nathalie Guibert, le scientifique Joël Doronet et le fondateur de la chaîne YouTube Y Penser, Bruce Benamran. Et Nathalie Guibert, on va commencer avec vous dans cette ambiance de sous-marin.
À vos postes, parez à plonger.
Tous à vos postes, parez à plonger.
En avant, lance. Arrêt le ballast avant.
Arrêt le ballast avant.
3 degrés d'inclinaison.
3 degrés d'inclinaison.
Vingt milieux sous les mers, en 1954, vous avez fait votre 20 milieux sous les mers à vous, Nathalie Guibert, vous êtes journaliste, spécialiste des questions de défense au monde, et donc vous publiez ce récit extraordinaire, Je n'étais pas la bienvenue, aux éditions Paulsen, un mois seul, donc dans un sous-marin, enfin seul, avec 75 bons hommes avec vous, vous êtes la première femme, la première journaliste à avoir donc partagé pendant un mois complet une mission secrète d'un sous-marin nucléaire d'attaque de la Marine nationale. Aucune place pour les femmes, habituellement, dans un tel bâtiment français ?
Alors, aucune place en général pour les êtres humains dans cette boîte et aucune place pour les femmes qui ne sont pas pour l'instant admises à servir dans ces bateaux de la marine.
Mmh. En France
En France, dans les sous-marins d'attaque et dans les sous-marins lanceurs d'engins et puis dans le monde. Alors quelques pays ont accepté les femmes dans ce qu'on appelle les sous-marins à propulsion classique qui sont des sous-marins côtiers qui reviennent fréquemment au port, mais dans les sous-marins nucléaires, qu'ils soient américains et britanniques notamment, elles viennent tout juste d'arriver au compte-août.
Pourquoi ?
Et pour les Français, ça sera l'année prochaine.
Pourquoi alors ce refus des femmes ?
Alors, pour beaucoup de raisons, quelques vraies fausses raisons scientifiques avancées par les médecins militaires depuis 100 ans que la sous-marinade existe. Par exemple, on serait un peu plus sujette au dérèglement à cause de la teneur élevée en dioxyde de carbone
bien
à bord.
Sûr, bien sûr.
Le fait de respirer le même azote pendant 3 mois, ça serait particulièrement nocif pour nous.
Oui.
Mais au fond, ça n'était pas prévu ni conçu pour les femmes.
Ouais.
Et puis surtout, il ne faut pas oublier la vieille superstition des marins.
Ça porte malheur.
Je pense qu'elle est toujours là, même si personne ne l'admet. Et je pense qu'elle est toujours présente.
Incroyable. Hein. Donc il y a des efforts à faire au niveau de la parité dans ce domaine, de la sous-marinade, hein, puisque c'est un terme que vous avez employé. Vous avez attendu 3 ans pour avoir l'autorisation d'accéder justement aux perles. C'est le nom de ce sous-marin nucléaire.
Voilà. Donc les sous-marins nucléaires, qui sont des machines de guerre, ont des noms de pierres précieuses. C'est assez surprenant. Donc des noms assez féminins, finalement. Mais quand j'ai fait la demande, je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais je savais que ça n'allait pas être non plus dans un claquement de doigts, que ça allait faire.
Qu'est-ce qui vous motivait, vous, au départ, dans cette idée de vivre cette expérience ?
Quand on est journaliste et qu'on voit on regarde autour de soi et qu'on voit qu'il y a un lieu qui est fermé parmi les lieux fermés, on se dit, bon, c'est là qu'il faut aller, forcément, la curiosité.
Ouais. Donc c'est le livre de votre journal de bord, au fond, hein, à 200 mètres de profondeur, pendant l'été 2014, à ce moment-là que vous êtes parti. Et donc cette vie dans ce tube de métal avec une mission qui vous a emmené, sans que vous le sachiez vraiment d'ailleurs, en Méditerranée, en Atlantique, c'est ça ? On sait où on va ou pas du tout ?
Dans les sous-marins d'attaque, on le sait.
Ouais.
Donc, parce que ce sont des missions de renseignement ou d'ouverture de la route pour les gros, comme on appelle les gros sous-marins porteurs de la bombe. Donc on sait où on est. Ce sont des missions assez variées hein, quand même, parce qu'on peut aussi travailler proche des côtes avec des forces spéciales, des commandos. Mmh. On peut faire diverses actions militaires. Et donc, généralement, on ne s'ennuie pas.
Oui. Alors, quelle préparation ? Parce que ça, c'est étonnant ce que vous racontez. On se dit, il y a une batterie de tests psychologiques avant d'aller dans le sous-marin. Eh bien, pas du tout.
Non, la sélection en fait très patiente, lente que fait la marine fait que les profils psychologiques, je pense, qui ne sont pas adaptés à ce type de mission sont progressivement écartés.
Oui.
Et donc moi quand je pensais effectivement subir quelques tests, on a surtout testé ma volonté aussi, c'est-à-dire qu'on m'a dit que ça allait être très dur, etc. pendant quelques semaines. Bon, et puis après il y a eu toute une série de stages pour apprendre distinguer une voie d'eau d'une avarie vraiment sérieuse, pour éteindre un incendie à bord qui est le danger majeur, pour s'évacuer par le sas au cas où on reste coincé à 100 mètres de profondeur.
Oui.
Bon, toute une série de choses, mais pas de vrais tests psychologiques et une série d'examens physiques aussi, avant, après. Bon, là, je pense que j'ai servi un peu de cobaye pour les prochaines qui viendront à bord. Voilà.
Ouais. Ça donne envie à Bruce Benhamran, hein.
Oui. Non, moi, c'est l'idée de m'évacuer par un sas à 100 mètres de profondeur là, qui me
travaille un petit peu. Hein. Et si vous aviez craqué, alors, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Vous avez posé la question, si ça se passe mal.
Alors, je me suis posé la question parce que j'ai attendu tellement longtemps que je souhaitais surtout pas que ça se produise.
Ouais.
Donc, j'ai demandé et on m'a dit, bon, on te piquera. Donc je dis oh, d'accord, on me piquera une petite piqûre, un petit sédatif pour me calmer. Et si ça va au-delà, bon bah non, là je voulais même pas y penser, mais ça arrive extrêmement rarement que des marins soient tout d'un coup dans un état anormal qui justifie qu'on les sorte du sous-marin. C'est rarissime. Mais c'est arrivé juste avant que j'embarque dans l'équipage précisément de la Perle. Un jeune a pas supporté.
Et donc le sous-marin est remonté à la surface ou pas?
Et donc ils l'ont débarqué.
Ce qui est quand même très problématique au milieu d'une mission.
Ça peut être problématique.
Là, c'était un des tout petits marins nucléaires, c'est ça? C'est un des plus petits, la Perle?
Alors, la France fait des tout petits sous-marins. Et donc, c'est un des plus petits du monde. Il fait 2500 tonnes. Pour les gens qui connaissent un peu ce monde, par comparaison, le Kursk, le
malheureux Kursk,
faisait 16 000 tonnes. Donc, vous voyez un peu l'échelle, effectivement.
On a d'ailleurs ces affaires en tête, j'imagine, quand on pénètre dans un tel sous-marin. L'affaire du Kursk en 2000, plus de 100 personnes décédées à cause des explosions qui avaient lieu dans
Parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, en fait.
Mais on ne les connaît pas, on n'en entend pas parler.
On en entend très peu parler. Il y a 6 sous-marins nucléaires américains et soviétiques, russes, qui sont restés au fond dans la période très récente, depuis que le nucléaire existe. Et puis auparavant, des dizaines d'autres diesel qui sont restés au fond, effectivement.
Et la discrétion est de mise, donc.
La discrétion, la pudeur, le fait que cette mémoire est très enfouie. Mais moi, je suis persuadée, quand les marins naviguent sous l'eau, ils savent dans quelles allées de leur cimetière ils se promènent.
Joël de René, vous n'avez jamais surfé sans le savoir sur un sous-marin nucléaire?
Non, moi, je suis pas sous l'eau, mais mon frère Arnaud de René, quand il fait une traversée de Sakhaline en bateau, en planche à voile, il a été à un moment donné, il m'a dit, sur une eau extrêmement lisse, il a été soulevé par une vague. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de houle, et il pensait que c'était le périscope d'un sous-marin. La trace d'un périscope de sous-marin, il était très surveillé.
C'est possible.
Dans une zone pareille, à Sakhaline, c'était le lendemain du jour où l'avion de Korean Airlines était descendu par un MiG soviétique et s'est écrasé sur la côte. Il a vu les bagages partout.
Il y avait sûrement un sous-marin, effectivement, là-dessous. Et le déplacement de la masse, si c'est un gros sous-marin russe, effectivement, peut produire ce genre de mouvement, c'est clair.
Nathalie Guibert, vous écrivez ceci au début du livre. « Pénétrer dans un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est forcer le domicile d'une famille jalouse de ses petits secrets. »
Oui, des petits secrets militaires opérationnels et puis des petits secrets inavouables d'un groupe d'hommes qui naviguent ensemble dans un lieu clos pendant longtemps, qui peut s'amuser beaucoup, qui peut parfois inventer des rituels un peu bizarroïdes.
Genre quoi?
Il y a les fameux bizutages des nouveaux venus. Alors les néophytes, comme ils appellent les jeunes qui embarquent, sont surnommés les néopuants. Donc ça vous dit un peu dans quel état on les considère. Et donc il y a toute une série d'initiations pour les faire devenir des sous-mariniers. Et donc ces petits secrets, plus ou moins opérationnels ou plus ou moins humains, finalement, ils n'aiment pas trop les partager, effectivement. Donc,
comment vous avez été accueillis à bord? Dans l'indifférence générale?
Non, alors au début, j'allais dire dans une chaleureuse réserve. Et puis,
c'est joli comme
et
formule.
Et puis après, on m'avait dit il faudra être absorbé. Donc c'est assez inquiétant comme perspective. Je me dis je vais disparaître dans mon petit uniforme. Et effectivement, on est totalement absorbé comme un peu en une secte ou ou un groupe très serré, très cohérent, très total. Et finalement, le plus dur, j'ai trouvé, c'est de s'en extraire et de l'extraire de son esprit au bout de quelques mois.
Une fois remonté donc à la surface. Et effectivement, dans une ambiance très serrée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque chaque personne dispose d'à peu près 1 mètre carré pour vivre, c'est ça?
C'est l'espace vital,
ça fait rêver, hein, Bruce?
À Paris, on connaît.
Alors, c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose de très spectaculaire. Et on peut pas évoluer sans toucher quelqu'un ou sans se heurter à quelque chose. Donc, l'horizon, tout d'un coup, devient extrêmement court. Et même l'œil finit par se conformer à cet horizon très court. Et quand on ressort, on n'accommode plus au loin. Et donc, il faut surtout pas prendre un véhicule en sortant du bateau sous peine de l'accident.
Bruce Benhamran.
Moi j'avais deux petites questions. La première, c'était est-ce qu'au début, l'équipage avait plutôt des réserves parce que vous êtes une femme ou parce que vous êtes journaliste? Et la deuxième question, c'est est-ce que quand vous êtes parti, comme dans plein de films que je suis en train de visualiser là, est-ce que ça a été complètement déchirant, y compris pour l'équipage? Parce que du coup, vous faisiez complètement partie de l'équipe au bout d'un mois. Vous avez vécu les mêmes choses qu'eux, finalement.
Alors, la réserve, pour commencer.
La réserve de l'accueil.
Femme oui, ou journaliste.
Alors, elle est liée au fait que quelqu'un passe autant de temps avec eux, parce que les journalistes peuvent embarquer 24 heures ou un petit peu plus longtemps, mais jamais aussi longtemps. Donc, comment ça va se passer, etc. Mais en même temps, un étonnement positif, c'est-à-dire un respect par rapport à quelqu'un qui s'est dit « je vais faire l'effort de comprendre véritablement ce qui se passe là-dessous, et ce que personne ne fait parce qu'on survole les choses généralement ». Donc ça, c'était cette ambivalence-là.
Et voilà. Alors, déchirure au moment du départ ou pas ?
Oui, c'est-à-dire que moi, j'étais furieuse que tout ça s'arrête, effectivement. C'est-à-dire qu'on est... je me suis dit, je pourrais continuer comme ça longtemps. Ouais. Et je sais qu'eux, ils ont beau apprécier fortement le retour à terre chaque année, en fait, ouais, ils ne peuvent pas s'empêcher de se voir quand même en dehors pendant leur permission, etc. Donc c'est quelque chose de... Oui, c'est pas... je dirais pas ami pour la vie, parce que ouais, ça n'existe pas dans le monde militaire, quelque chose qui restera comme un lien.
Martin nous dit sur franceinter.fr, l'esprit de compétition que génère une présence féminine au milieu des hommes est particulièrement problématique dans un milieu confiné. Ce n'est pas propre aux sous-marins, n'a rien de sexiste. L'état psychique des sous-mariniers est très suivi. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Alors, je ne sais pas si...
Il y a un peu de sexisme quand même là-dedans,
oui,
non ?
Oui, forcément. Quand même. Ah, oui. Mais oui, c'est toujours l'argument. Effectivement, ça va être tout d'un coup un déchaînement hormonal incontrôlé. Non, je pense que les femmes s'intégreront de toute façon progressivement. Ça ouais, va mettre le temps que ça qu'il faudra, une génération peut-être. Mais il y aura pas de drame. Il y aura pas non plus, comme dans la comédie américaine Opération Jupon, un délire sous l'eau. Ça, il faut oublier.
Et puis de la même manière, je veux dire, outre l'argument sexiste, le problème se poserait également pour les personnes qui sont gays. Et c'est pas le cas. Donc je veux dire, les gens savent se tenir. C'est-à-dire que les gens qui sont civilisés, qui ont été formés à être sous-mariniers, ils savent se tenir. Quoi.
Ce voyage, qu'est-ce que vous en gardez alors aujourd'hui, Nathalie Guibert ?
Bah, j'en garde des traces.
On en ressort un peu différent, j'imagine.
Oui, bien sûr, parce que ça vous remue beaucoup de choses. Et une leçon sur notre capacité humaine à supporter l'enfermement. Pourquoi on le supporte, pourquoi on y va, avec quel enjeu derrière et comment on se conforme à ça. C'est assez étonnant. L'homme est d'une grande plasticité, en fait.
Absolument. On le disait tout à l'heure avec notre cerveau autour du mensonge. Et c'est le cas également dans un sous-marin. C'est un très beau récit où on en sait plus sur aussi les moments de tension, parce qu'ils existent évidemment dans ce cadre de huis clos tout à fait particulier, sur les conditions de vie, dans ces lumières aussi du jour et de la nuit très étranges. Je n'étais pas la bienvenue, c'est passionnant et c'est aux éditions Paulsen. Quittons le navire. Mandrax, Julien Gasque sur France Inter.
Le club carré sur France Inter.
Et direction Nantes où nous attend Jeanne de Batz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes la nouvelle déléguée artistique des Utopiales, le festival international de science-fiction qui commence demain à Nantes, c'est à la Cité des Congrès jusqu'au 3 novembre prochain. La science-fiction, Jeanne de Batz, ça se porte très bien finalement avec un public qui ne cesse de s'élargir, hein, visiblement.
Ah, nous aimerions bien, en tout cas, aux Utopiales, ce public est au rendez-vous, 65 000 personnes l'année dernière,
mais
nous
oui.
en attendons au moins autant cette année. Et avec près de 200 invités, 136 tables rondes, des forums, un village d'exposition, des séances de dédicaces et de cinéma. Venez.
Voilà pour le résumé. Et le thème principal qui est autour des machines cette année, hein.
Absolument. Ce qui est tout à fait logique de la part d'un festival centré autour de la science-fiction, puisque, grosso modo, c'est le propos de la science-fiction que de s'occuper de la coévolution entre l'homme et la machine, entre l'homme et la technologie, et ce, depuis les cavernes.
Alors, les sous-marins, vous en parlez, vous, ou pas, justement, parce qu'on parlait des machines tout à l'heure?
Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que disait votre invité.
Oui.
Ça m'a rappelé un roman d'un auteur qui a écrit de la science-fiction sans dire qu'il en écrivait, Robert Merle. Et ce roman, c'était « Le soleil ne se lève pas pour nous ».
Oui.
Il avait fréquenté un sous-marin pendant un certain temps et écrit ce roman qui m'avait passionné.
Ah, Nathalie et Guibert, vous l'aviez lu ce livre avant de partir,
oui. Hein. Oui, je l'ai lu.
Ouais.
Vous l'avez aimé, j'espère.
Apparemment,
Robert
oui.
Robert Merle écrit fort bien.
Oui. C'est vrai, mais il décrit un monde qui est un peu figé. Je pense qu'il est plus mobile maintenant, en fait.
Jeanne de Batz, oui, ce sont des machines pour explorer, hein, justement, pour transformer, pour servir, des machines extraordinaires aussi qu'on peut découvrir aux Utopiales.
Absolument. Et puis, d'ailleurs, on commence par découvrir un sous-marin, puisque l'affiche du festival, c'est un immense robot qui repêche le Nautilus dans le port de Nantes.
Ben oui, avec Jules Verne, évidemment, hein, c'est quand même l'enfant du pays.
Absolument, oui. Et le festival est en totale cohérence avec l'esprit vernien, du coup.
Oui. Je crois que vous allez organiser des tables rondes qui seront traduites en langue des signes. C'est la première fois que vous le faites aux Utopiales?
En effet, mais de toute façon, les Utopiales sont très orientées vers l'accessibilité de tous les publics. Cette année, le public sourd va nous rejoindre, mais l'année dernière, nous étions allés vers les prisons, ce que nous continuons à faire, les prisons de Nantes, fameuses. Nous allons aussi dans les hôpitaux. Les enfants des hôpitaux de Nantes sont souvent part intégrale de nos jurys, notamment pour le prix européen jeunesse. Alors cette année, ça n'a hélas pas été possible pour des raisons médicales, justement, mais l'année dernière, ça avait été le cas. Effectivement, certaines tables rondes, parfois centrées sur la notion d'adaptation avec le monde en dépit des difficultés, parfois sur des sujets totalement science-fictifs, parce que nos invités sont des créateurs de science-fiction. Ils ne sont pas uniquement définis par leur surdité, n'est-ce pas? Je pense à Olivier Fidalgo, par exemple, ou Icar. Ce sont des créateurs de talent et ils seront traduits en langue des signes, à la fois pour les tables rondes, mais aussi pour leurs dédicaces. Donc il ne faut pas hésiter à venir et à parler avec nos invités.
Et puis une grande exposition en partenariat avec le CEA et l'INSAM qui s'appelle Science Machina et qui célèbre la science et ses machines fantastiques. Justement, tout le programme est sur utopial.org. Je signale également, Jeanne Debat, que vous avez publié Dark Vador contre Monsieur Spock chez Dunod cette année. Et vous saluerez pour nous chaleureusement.
Olivier Cotte.
Absolument.
Je n'étais pas toute seule.
Et vous saluez chaleureusement pour nous Roland Lehoucq, qui sera avec vous évidemment sur place jusqu'au 3 novembre prochain à la Cité des Congrès. Merci beaucoup Jeanne Debat, bonne journée et bon festival. Au revoir.
Bonne journée à vous.
Bruce Bellamran, informaticien, fondateur de la chaîne YouTube de vulgarisation scientifique Y Penser et Prenez le temps d'y penser. Le tome 2 arrive aux éditions Marabout. Vous avez le sourire pour en parler, ça tombe bien. Et vous êtes également un homme de scène puisque vous avez fait la première partie de l'exoconférence d'Alexandre Astier. En voici d'ailleurs un extrait.
Quand on pense à l'évolution, on demande à quelqu'un c'est quoi l'évolution? Mais bah c'est facile. C'est depuis que la vie est apparue sur Terre à jusqu'à maintenant. Parce que nous on est la forme évoluée. Ah, pas du tout. C'est pas du tout fini, ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord? D'accord. Alors, le meilleur exemple pour ça, c'est l'œil, vous allez voir. L'œil. Non.
Voilà, et vous avez tout fait finalement, de la chaîne YouTube au livre, en passant maintenant par la scène, et pas n'importe quelle scène, parce qu'en faisant la première partie d'Alexandre Astier, ça a été l'Olympia jusqu'à Bercy.
Oui, c'était des très très belles scènes, c'était des scènes qui sont c'est innommables, c'est-à-dire que moi, normalement, j'avais rien à faire là, en vrai, j'ai rien à faire là, je suis pas un comédien, je fais pas de scène, mais bon, moi c'est une opportunité qui se présente qu'une fois dans une vie. Donc
vous explorez tous les formats au fond.
Oui. Voilà, c'est en fait j'ai découvert ça quand j'ai lancé ma chaîne YouTube Y Penser. À la base, j'étais donc informaticien. Puis ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, mais je croyais pas du tout que ça pourrait fonctionner. Mmh. Puis quand ça a commencé à marcher, que je me suis dit merde, mais je pourrais même pourquoi pas en vivre. Je me suis dit mais combien de fois est-ce que j'ai eu envie de faire des choses et que je suis pas allé plus loin en disant non mais c'est pas sérieux. Donc là maintenant je dis oui.
Voilà. Et donc vous êtes heureux hein, et vous vivez des choses assez extraordinaires. 100 000 exemplaires pour le premier tome donc chez Marabout. Prenez le temps d'y penser. Arrive avec le deuxième aujourd'hui. Attention, la couverture est assez ressemblante. Hein.
Oui.
Vous n'avez pas acheté ce deuxième tome. C'est un nouvel opus qui arrive et qui est vraiment là dans la directe ligne du premier. Hein.
Ah oui, c'est la suite. Hein, ça, il commence chapitre 90 d'ailleurs. C'est vraiment ça. L'idée, c'est qu'à la base, il n'était pas prévu d'en faire deux. Donc moi j'avais commencé par écrire la table des matières et puis arrivé page 400, j'étais à la moitié de la table des matières, donc j'ai appelé mon éditrice, je lui ai dit écoute, je pense qu'il vaut mieux qu'on
j'ai déjà le deuxième sous la main. Voilà, finalement. Qu'est-ce que vous racontez dans un tel livre alors finalement? Est-ce que vous êtes toujours autour du monde de la physique, votre discipline de prédilection?
Alors dans le 2 oui, c'est principalement de la physique et pour le coup autant le 1, il y avait vraiment beaucoup de sujets différents qui ont été traités. Autant le 2, je me concentre un peu plus, bon je fais aussi des écarts, mais je me concentre un peu plus sur l'univers d'une part avec le Big Bang, les trous noirs, etc., matière noire, énergie noire, et l'infiniment petit avec la mécanique quantique, et ça va jusqu'à la théorie des cordes, on gratte la théorie des cordes.
Dit comme ça, c'est une table des matières, mais évidemment, tout l'art dans cet ouvrage, c'est de raconter des histoires.
Hein. Oui.
C'est le fil, au fond, pour faire mieux passer la science.
Hein. Ah oui, il y a deux choses que j'essaye de faire. J'essaye d'expliquer simplement des choses qui sont compliquées, et puis j'essaye de raconter aussi l'histoire autour, de quelle façon est-ce que ces choses ont été découvertes, parce que ce que je dis souvent, c'est Einstein s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, tout est relatif ». C'est-à-dire, il y a des choses qui sont construites avant. Il y a, c'est des siècles de raisonnement. Et voilà. Et donc, j'aime bien aussi les anecdotes. J'aime bien humaniser les scientifiques. Moi, raconter la vie personnelle de Schrödinger, je trouve ça marrant. Ça apporte pas grand-chose, mais c'est marrant.
Ouais. Et vous attaquez à des sujets donc difficiles. On vient de l'entendre dans cette énumération. Vous dites, par exemple, à quel point la mécanique quantique, c'est un sujet avec lequel on peut s'arracher vite les cheveux, quand même. Hein.
Oui. C'est là pour le coup vraiment, je me cache derrière Richard Feynman et d'ailleurs je cite un extrait, un gros extrait d'une de ses conférences pour dire où Feynman disait, en gros, je paraphrase, c'est si vous cherchez à comprendre vraiment la vraie nature du fonctionnement, ça, vous n'y arriverez pas, laissez tomber. Ouais. Alors juste asseyez-vous confortablement et regardez à quel point c'est délicieux, de quelle façon tout ça se comporte. C'est tout. N'allez pas plus loin.
Joël de René, quel regard vous portez sur cette nouvelle génération là qui fait de la science sur YouTube justement?
Bah d'abord, je suis un grand admirateur de Bruce depuis longtemps. Je trouve formidable sa façon d'expliquer simplement des choses compliquées. Et en fait, on fait un peu la même chose aussi.
Mais oui.
En plus d'être écrivain et conseiller du président d'Universcience, j'ai aussi sur YouTube 24 films. Film de 3 à 6 minutes que j'ai fait devant un tableau blanc qui explique de manière simple, je l'espère, en tout cas ça a l'air d'avoir du succès, des choses compliquées, par exemple qu'est-ce que la photosynthèse, qu'est-ce que la respiration, comment les fourmis trouvent le chemin le plus court pour aller chercher quelque chose.
Ah ben, il y a aussi des questions de fourmis et de termites dans le vôtre, hein, Bruce.
Voilà, donc qu'est-ce que la pile à combustible, qu'est-ce que les biocarburants de 3e génération, donc tout ça ce sont des films de 3 à 6 minutes qui sont diffusés sur YouTube et Dailymotion à l'usage des professeurs, des enseignants, et donc c'est un peu partout, voilà, comme lui, comme Bruce.
Ouais. Bruce, justement, il y a un phénomène en ce moment, c'est les éditeurs qui contactent les youtubeurs pour faire des livres. Alors ça, c'est en train de se développer. C'est-à-dire qu'on voit tout le monde maintenant sortir son bouquin. Hein.
Oui, bah ça c'est là. Clairement, je pense que ce qui s'est passé, c'est que quand Enjoy Phoenix a sorti son livre il y a à peu près un an et demi, je dirais à peu près, d'un coup les éditeurs se sont dit ah,
ça marche. Allons-y.
Moi, je peux être tranquille par rapport à ça, puisque moi, quand Enjoy Phoenix a sorti son livre, le mien était déjà en préparation.
Ah, ouais,
donc voilà, je suis pas concerné.
Ouais. Non, mais là, il y a vraiment un phénomène, en tout cas.
Ah, oui, là, cette année, il y en a au moins 10 ou 12.
D'ailleurs, par rapport à la forme aujourd'hui sur YouTube, de ce qu'on voit énormément, c'est-à-dire un face caméra avec de jeunes talents qui nous expliquent la science, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose à inventer, là, en plus, avec on voit comme une répétition des choses. Est-ce qu'on n'est pas une limite aussi de la forme aujourd'hui?
Alors, Alors oui et non, ce qui est, alors c'est marrant parce que d'un côté, c'est le face caméra, c'est quelque chose qui lasse pas, qui ne lasse pas les spectateurs. Mm-hmm. Ils ont l'habitude, sauf si les vidéos sont chiantes. Mais voilà. Mais en revanche, on voit maintenant de plus en plus des youtubeurs, des vidéastes qui cherchent à créer d'autres choses. Je prends l'exemple de Dirty Biology, par exemple. Maintenant, il fait des vrais documentaires
sur Arte,
qui sont longs, où il fait des voyages et tout. Mais même son premier, c'était pas sur Arte,
oui,
c'était
mais
sur
là,
YouTube.
Là, il va débouler sur Arte bientôt. Ouais.
Il y a Cyrus North qui est parti au Népal, qui raconte donc son voyage de 21 jours au Népal. Donc lui, fait de la philosophie.
Ouais.
Et de plus en plus, justement, on cherche à innover, à avoir des choses qui sont beaucoup plus qualitatives en termes d'image, de son et de contenu.
Dans ce livre, on saura par exemple pourquoi les Anglais roulent à gauche. Hein, ça fait partie des questions essentielles qu'il faut expliquer. Et la science a des choses à dire.
Tout à fait.
Là-dessus.
Ça et les feux rouges.
Cher Bruce, exactement. Ça s'appelle Prenez le temps d'y penser. C'est le tome 2. Si on s'écoutait un dernier extrait de votre première partie chez Alexandre Astier, par exemple.
La vie est apparue sur Terre à 3,5 milliards d'années. 3,5 milliards d'années. À l'époque, la vie, c'est nul. Sauf pour 2-3 biologistes qui sont là, genre, non. À l'époque, la vie, c'est des bactéries dans l'eau. Il n'y a rien de plus con qu'une bactérie dans l'eau. Hein. Je veux dire, c'est une cellule toute seule qui n'a pas de noyau, il y a déjà de l'ADN, hein. C'est déjà de la vie, il y a deux, trois trucs, voilà. Cette bactérie, comment elle fait pour se reproduire? Le sexe n'existe pas encore. Non, quand je vous dis que c'était nul, c'était nul. elle s'étire, et pas comme ça, on se retrouve avec deux bactéries qui sont quasiment identiques. Et le mot important, c'est quasiment. Parce qu'il y a des mutations génétiques. Et ces mutations génétiques, après des milliards d'années, des millions de générations, ça crée une complexité dingue, ça crée une diversité folle. Je veux dire, monsieur partage 50% de son ADN avec une banane. Riez pas trop, vous êtes bien conscient que c'est un exemple, que c'est valable pour vous aussi.
Voilà, le sens de la métaphore, hein. C'est toujours très important pour expliquer la science. Et c'est ce que vous faites donc dans ce deuxième tome qui paraît chez Marabout. Vous restez avec nous,
bien sûr.
On parlera avec Joël de René dans un instant.
São Vicente, na alegria, na cessadura, vão caput fazer ideia, se na carnaval era amassar. Já me conhecia São Vicente, na alegria, na cessadura, vão caput fazer ideia, se na carnaval era amassar. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor, nesses dias de loucura. Cá tem guerra e carnaval, nesse mora benza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora benza sem igual. Não tem um festinha mais sossego, da doicita vou poder entrar, coque e bafa cá tá faltando. Hoje é dia de carnaval, não tem um pistinha mais sossegado. Cabo e cita, vou poder entrar, coque e bafa, catafanta. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora benção sem igual.
Parfait pour débuter le week-end, Césaria et Evora à l'instant.
La tête au carré, le club. Sur France Inter.
Joël de René avec ce livre, je cherche à comprendre les codes cachés de la nature aux éditions Les Liens qui Libèrent. Tiens, puisque vous parlez beaucoup de biologie, je fais une petite parenthèse pour tous ceux qui souhaitent comprendre la théorie de l'évolution en riant et en passant à un très bon moment. C'est le théâtre de la Reine Blanche qui propose en ce moment ce spectacle Tout le monde descend avec Marie Charlotte Morin qui avait gagné MT 180 il y a 2 ans et qui a décidé d'arrêter la recherche pour monter sur scène. Elle le fait très bien avec son compère Alexandre Teche. C'est un spectacle d'utilité publique, c'est du café théâtre très drôle autour de Darwin. Et je vous le signale parce qu'il reste encore quelques places pour demain, samedi. La représentation a lieu à 17h45 au Théâtre de la Reine Blanche. Et c'est très drôle. Joël de René, je cherche à comprendre. Cette phrase, c'est celle d'un homme, le professeur Jacques Monod, le jour de sa mort, il y a 40 ans, une phrase qui s'ouvre au fond sur le mystère de l'au-delà. Jacques Monod, prix Nobel de biologie, et qui a été votre maître aussi. Hein.
Absolument, c'est lui qui m'a fait venir à l'Institut Pasteur quand j'étais au MIT, aux États-Unis. Et j'ai une admiration extraordinaire toute ma vie pour Jacques Monod. Et cette phrase, je cherche à comprendre, c'est une des dernières phrases qu'il a prononcées avant sa mort. Et moi, je cherche à comprendre depuis toujours et à expliquer surtout.
Et là, vous allez sur le terrain de la spiritualité, au fond, dans
ce
livre.
C'est-à-dire que ce livre m'a conduit à une surprise pour moi-même, si vous voulez. En faisant la recherche pour ce livre, j'ai été émerveillé par ce que j'ai découvert sur la manière dont des codes très simples programment des choses sublimes comme des cristaux, une aurore boréale, un arc-en-ciel, la queue du paon. D'où ça vient? Ce sont des codes très simples, finalement. Ouais. Que les codes qu'on retrouve partout et la similitude de ces codes dans la nature et leur programmation m'a émerveillé d'une certaine manière et m'a conduit à une réflexion de nature spirituelle, mais pas du tout religieuse. Mais...
Oui, c'est un peu difficile pour un scientifique.
C'est difficile pour un scientifique qui n'a pas la foi, qui n'est pas croyant, mais tout d'un coup qui voit qu'il y a d'autres dimensions qu'il avait jusqu'à présent pratiquement échappé.
Et en tout cas, il y a cet émerveillement sur les formes de la nature. C'est ce qui ouvre d'ailleurs votre livre, hein, puisqu'on démarre vraiment dans ce domaine de la biologie pour aller petit à petit vers les évolutions apportées par l'homme et les transformations.
Et la prise en main par l'homme de transformations qui risquent de mettre en cause sa propre évolution. Donc c'est la morphogénèse qui m'a toujours passionné comme chimiste d'abord, parce qu'un chimiste crée des formes. Donc la morphogénèse m'a passionné. J'étais passionné par Turing et Fibonacci, que je décris dans le début du livre. Turing a été un de ceux, on croit que Turing, c'est le père de...
C'est le père de l'ordinateur.
Du décryptage, Enigma du code des nazis, mais c'est aussi le père de la morphogénèse.
Et on le connaît moins là-dedans, évidemment.
Qui a expliqué comment les taches du léopard se produisent, les taches de la girafe ou des zèbres, et surtout qu'avec un ordinateur, on peut maintenant refaire ces taches comme l'avait prévu Turing, selon les algorithmes de Turing.
Ouais. Donc toutes ces formes complexes de la nature, ça vous
passionne. Et dans le temps, c'est-à-dire des formes qui sont dans l'espace, et des formes dans le temps, comme les fameuses réactions de Belousov-Zabotinsky, deux Russes, qui ont montré qu'un système oscillatoire allait à l'encontre des prévisions traditionnelle de l'entropie.
La spirale de Fibonacci, par exemple, vous qui êtes un amateur de surf, vous comparez justement la structure d'un coquillage et puis le tube de la vague.
Alors le tube de la vague des surfeurs, c'est pas du tout un cylindre. Le tube de la vague, c'est une spirale de Fibonacci, exactement. Et on sort dedans, c'est l'idéal pour le surfeur.
C'est ça. Et vous y pensez quand vous êtes sur une planche à ces formes extraordinaires
de la nature? Dans l'écosystème
de la
nature, je pense au déterminisme et à la liberté. Ouais. Le déterminisme qui a créé la vague, c'est pas moi qui l'ai faite, et la liberté que j'ai de surfer dessus et d'aller où je veux.
Ouais. Et tout ça, c'est de la beauté, c'est tout simple.
C'est émouvant, c'est une merveille pour moi.
Ce sont les bases de la vie, tout simplement.
C'est les bases de la vie, en même temps, ça excite la raison du scientifique, la raison du prospectiviste et la raison de l'humaniste. Parce qu'il y a trois personnes en moi dans ce livre. Il y a le scientifique prof, il y a le prospectiviste qui essaye de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, et l'humaniste qui essaye de trouver des solutions pour que l'intelligence artificielle ne nous, pas comme nous disent Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking, va submerger l'humanité et nous transformer en esclaves.
Ils ne sont pas très optimistes.
Non, pas du tout.
C'est fou d'ailleurs les discours qu'ils véhiculent.
Mais j'explique qu'ils se trompent complètement.
Ouais, mais c'est fou. Ce type de parole,
mais complètement,
par des hommes qui sont autant écoutés.
Mais en plus, ils se trompent, ils ont une vision malthusienne. Ils pensent que l'évolution de l'intelligence artificielle est exponentielle, c'est vrai. Que l'évolution du cerveau humain est linéaire, c'est faux. C'est que l'évolution du cerveau humain, plus l'intelligence artificielle, plus les robots, plus l'écosystème planétaire qu'on a créé, l'écosystème numérique qu'on appelle encore Internet, tout ceci ensemble va conduire à ce que j'appelle dans mon livre l'intelligence augmentée collective.
Vous dites que Stephen Hawking se trompe, Joël de René ?
Oui, j'ai le culot de le dire.
Il faut oser le faire,
Non.
Bruce Benamran.
Non, je pense qu'il a raison. Il ne faut pas hésiter à remettre en cause Stephen Hawking.
Bon, il n'est pas là pour se défendre. Voilà. Enfin bon, on peut quand même.
Ne serait-ce que pour ça.
Voilà. La vie, c'est un petit courant électrique alimenté par le soleil. C'est une des phrases du livre.
J'avais donné cette phrase déjà dans un livre sur les origines de la vie que j'avais écrit et l'évolution du vivant. En fait, c'est un électron qui a sauté d'un saut quantique supérieur grâce à la chlorophylle lors de la photosynthèse et qui retombe en cascade à l'intérieur de tous les rouages du vivant, notamment par le cycle de Krebs qui produit de l'adénosine triphosphate qui est le carburant de notre vie. Et bien cet électron, il joue un rôle absolument fondamental. C'est donc un petit courant électrique qui alimente la vie.
Bruce Benamran, tout à l'heure, je vous disais que vous parliez des fourmis et des termites. En fait, c'est pas du tout vous qui en parlez, c'est Joël de René. Hein, dans son ouvrage, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais c'est ça, c'est votre livre. C'est ça quand on étudie plusieurs choses à la fois.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les fourmis trouvent le chemin le plus court parce qu'elles sont intelligentes, mais parce qu'elles développent une intelligence conscience collective plus la mémoire de l'environnement. Comme elles déposent des gouttelettes de phéromones, quand elles vont chercher quelque chose derrière un obstacle dissymétrique, elles ont le choix à 50% d'aller dans le chemin le plus long, le chemin le plus court. Quand elles prennent le chemin le plus court, elles laissent une trace de phéromones que les autres sentent quand elles arrivent. Et comme la densité du cortège de fourmis est plus grande du côté plus court, parce qu'elles sont dans un embouteillage, souvent l'odeur est plus forte, attire les autres fourmis à venir là. Donc il y a un feedback positif qui fait que finalement, elles enrichissent le chemin le plus court pour aller chercher la nourriture et en revenir.
Et ça, on peut extrapoler ces systèmes complexes, parce que là, on voit vraiment quelque chose d'absolument fascinant, alors, à la ville, par exemple, aux réseaux sociaux, à Internet.
Ça explique des choses dans lesquelles, pour les croyants, on dit c'est le bon Dieu qui a décidé que la température moyenne, 11,5 degrés de la planète, c'est idéal pour la vie. Mais non, c'est la vie qui a conduit les conditions de sa propre émergence et de son propre maintien. Ouais. Donc c'est l'équifinalité, mais pas de la finalité planifiée.
Alors vous, justement, qui aimez penser au futur, Joël Doronet, prospectiviste, les robots, l'intelligence artificielle, ça, ce sont les grands défis pour l'homme du troisième millénaire.
Ce sont effectivement des grands défis parce que l'intelligence artificielle, qu'on appelle le deep learning aujourd'hui, peut apprendre, donc s'enrichir par son apprentissage. Les robots intelligents apprennent aussi. Donc je crois que dans le futur, pour s'en sortir et éviter qu'ils ne nous dominent, comme le croient certains, c'est d'arriver à parvenir avec leur association en symbiose à une intelligence augmentée qui nous transforme, nous, c'est ce que j'appelle dans mon livre l'hyperhumanisme par rapport au transhumanisme. L'hyperhumanisme, c'est d'être plus intelligent collectivement grâce à la symbiose avec ces outils.
Alors c'est ça, ça c'est intéressant parce que c'est l'intelligence collective justement. Voilà. Ça aussi c'est très émergent dans la façon dont nous vivons aujourd'hui avec les réseaux sociaux en particulier. Hein.
Exactement, et cette intelligence collaborative peut être augmentée par l'utilisation de l'intelligence artificielle, de la robotique, etc.
Bruce Benhamran.
C'est vrai qu'il y a cette grande question qui se pose de plus en plus aujourd'hui et qui est effectivement la question du transhumanisme ou de l'hyperhumanisme. De mon côté, moi je pense que moi ce que j'attends de voir déjà c'est une machine qui puisse apprendre mais apprendre aussi à faire des erreurs. Je pense que moi on parle je parlerai d'intelligence artificielle quand on en sera arrivé là.
Bah elles font déjà des erreurs au fond les machines. On voit dans les combats par exemple avec le jeu de Go, on l'a vu. Oui. Alors la machine peut gagner mais elle peut perdre aussi dans certains cas.
Bien sûr, mais ce sont pas elles qui commettent des erreurs, c'est la façon dont on leur a appris à jouer. Oui. qui permet ces erreurs là. Moi j'attends le jour où la machine aura une idée et que cette idée sera fausse, et qu'elle devra se dépatouiller avec ça.
Et le pire, c'est quand elle arrivera elle-même à corriger ses propres erreurs. Là, c'est un pas supplémentaire vers lequel on va aussi par le deep learning.
C'est inquiétant,
c'est tout le défi de l'humanité du futur, c'est d'aller vers un hyper-humanisme où on est encore plus humain, plutôt que dominé par les machines et l'électronique.
Mais de mon côté, je pense pas que les machines... Il y a effectivement cette crainte, c'était Stephen Hawking dans une interview qui disait que le jour où il y aura l'intelligence artificielle, ce sera la fin de l'humanité.
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Il se trompe.
Et moi, je pense aussi qu'il se trompe. Je pense que, au mieux, je pense que l'intelligence artificielle se moquera de l'humanité. Mmh. Ça l'intéressera pas. Exactement comme nous, on peut passer à côté, effectivement, de trois fourmis au sol.
J'ai même pas intérêt à la dominer, ça en vaut même pas la peine.
Le mépris de l'intelligence artificielle, ça va être terrible pour nous. Hein. Nathalie Guibert.
Un petit événement qui m'a un peu rassurée sur l'homme, c'est quand ces deux sous-marins, justement, nucléaires, d'attaque américains et français et britanniques se sont heurtés dans les mers au-dessus de la Manche en 2009. Cet événement en probabilité n'avait aucune chance d'arriver. Ouais. C'est une machine les plus complexes du monde, les plus silencieuses, les plus furtives. Et en réalité, en discutant avec des marins, j'ai compris que les hommes à bord raisonnaient de la même manière. Et donc finissant par raisonner exactement, produire les mêmes raisonnements, s'était trouvé au même endroit.
Petite critique de l'intelligence collective.
Au même moment.
Moi, je pense
fois inquiétant. Non, mais pour moi, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que effectivement, ça évite les malentendus.
Je pense que partout. Mais ça n'a pas évité l'accident, malheureusement.
Partout et même dans l'entreprise, au-delà du numérique, il faut revenir à l'humain. Il faut revenir au lien humain, au lien social, qui est le meilleur capteur, le meilleur analyseur, parce qu'il y a l'émotion, la sensibilité, l'approfondissement affectif que la machine n'a pas.
Et ça s'appelle « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature ». C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Joël Doronet, merci beaucoup d'être venu dans notre club. Nathalie Guibert, donc chez Paul Sen, je n'étais pas la bienvenue. Et Monsieur Bruce Benhamran, chez Marabout. Prenez le temps d'y penser, le tome 2.